Marc-Antoine Tigavarish Parouski?
Pas du tout.
C'est une façon de poser la question. Dans quelles conditions s'est effectué l'enregistrement de cette œuvre?
Eh bien, sur place. En tout cas, c'est un documentaire que j'ai réalisé pour la RTBF. Donc, il s'appelle Ville souterraine. Donc, dans ma petite présentation, je me suis arrêté à mon premier documentaire sur France Culture, qui était une histoire intime entre trois voix. Mais j'ai un très fort rapport au son. Et au fait de traverser des espaces et à la ville surtout. Ça, c'est mon expérience dans le spectacle vivant, dans la rue. Voilà, y a quelque chose avec la ville et l'urbain qui fait partie de mes recherches continuelles, quoi, on va dire. Donc, c'est quelque chose de très important pour moi d'injecter des sons pour enlever de la narration, pour enlever de la voix aussi, et que les sons parfois parlent à la place des témoins, quoi. C'est tout un dosage comme ça. Et donc, je suis parti pendant un mois en Russie pour faire un documentaire sur des zones de garage qui sont toujours des énormes zones où on garait sa voiture à l'ère soviétique. Donc, quand je parle d'énormes zones, par exemple à Moscou, quand je suis arrivé, c'est une zone de 10 000 garages et qui, à la suite de la chute du mur de Berlin, s'est transformée en atelier d'artisans, puisque en fait les gens n'ont plus de travail. Ça a été une crise terrible. Voilà ce qu'ils ont vécu des années 90 jusqu'à 2000. C'est ce que nous, on va vivre sur 30-40 ans d'un point de vue des démantèlements des services publics, tout ça. Donc les gens ont été dans une extrême pauvreté et donc ils ont réinvesti beaucoup d'artisans, d'ouvriers, ont réinvesti ces espaces pour travailler ou pour simplement se retrouver dans des lieux intimes, entre copains, voilà, mais beaucoup pour faire des choses, avec leurs mains. Et donc ces zones de garage, elles sont ouvertes aux gens des villes pour venir. Il y a des restaurants, réparer ses meubles, réparer sa voiture. Donc c'est effectivement une ville entre guillemets souterraine, puisque il y a tout un rapport à la propriété aussi, parce que ces garages, ces gens-là, ils étaient propriétaires de ces garages. Sauf que la propriété en Russie, c'est très compliqué. Donc quand je suis arrivé par exemple à Moscou, l'énorme zone de 10 000 garages, je suis arrivé en pleine destruction. Ça faisait 3 jours que au début du documentaire, là il y a un côté un peu plus musical des choses, mais au début du documentaire, je suis dans le début du doc, c'est mon arrivée à Moscou sur cette zone de garage détruite, où des gens récupèrent des choses et les choses qu'ils peuvent, qui leur appartiennent, mais parce que leurs garages ont été détruits. Donc ça m'a passionné de rencontrer ces gens, de rencontrer ces artisans, et j'avais vraiment envie de... je ne sais plus qui c'est qui parlait de comment on... des images, comment on rencontre d'un lieu. Et effectivement, moi, j'ai avec mon micro, je m'en sers pour recueillir la parole, mais je m'en sers aussi beaucoup comme...
Donc pas de preneur de son.
Oui, non, oui, pardon. Sur ce documentaire-là, je n'avais pas de preneur de son. Ouais. Voilà. C'est moi qui prenais le son, ouais. Tout à fait. Et il y avait une traductrice. Voilà, il y avait une traductrice et aussi quelqu'un qui nous a fait rentrer dans les garages, parce que c'est des zones quand même assez... on ne rentre pas comme ça. Et donc, je voulais rendre compte à travers des sons de ce que je ressentais dans ces zones de garage, et aussi à travers la traduction, effectivement... Où ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté, parce que je connaissais pas comment rendre. J'avais pas envie de voice-over ou avec une voix russe tout le temps en bas. J'avais vraiment envie qu'on entende ces voix russes, quoi. Voilà, qui sont c'est une belle langue. Donc il y a plusieurs ressorts entre moi qui viens dans les interstices des fins de phrase pour raconter un contenu, mais aussi là on entend dans l'extrait où j'ai mis la traductrice avant. Donc on entend Vladimir tapissier en train de frotter son tissu, et puis il y a la traductrice qui commence à parler, et puis ensuite vient le personnage. Donc voilà, tous ces ressorts de traduction m'ont passionné, quoi. Voilà.
Alors avec une précurseur là aussi, c'est Kémortley, qui a beaucoup travaillé sur les traductions.
Oui,
c'est intéressant de voir tout ce qu'elle a pu inventer sur les manières de faire passer des traductions. Et moi j'ai beaucoup, enfin dans cette écoute, j'ai beaucoup apprécié de pouvoir justement avoir la voix russe, franchement. C'est-à-dire que, pour ceux qui comprennent le russe, il n'y a aucun souci. Quoi. C'est vraiment très beau. Alors, l'autre étape, parce que c'est toute une composition, ce documentaire en particulier, il y a tout le travail sonore. C'est-à-dire qu'il y a ce qui a été enregistré, il y a ce qui a été ressenti, qu'on va essayer de faire passer aux auditeurs. Et puis, il y a un travail sonore après aussi.
Oui, ben, ça, c'est mes ressorts de compositeur. Je ne peux pas m'empêcher quoi, de bricoler les sons, de les agencer, d'en faire un peu de la musique. Voilà, c'est plus fort que moi. Tout en ayant... c'est tout un dosage. Mais c'est aussi, notamment sur ce documentaire, j'avais pas envie d'être Marc-Antoine au pays des soviets, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas raconté l'histoire russe parce que la traductrice, elle a un rôle de traductrice, mais pendant le documentaire, elle me raconte, elle est née 2 mois avant la chute du mur. Donc en gros, ses parents, ingénieurs, sont sortis de l'école et n'ont jamais fait leur travail d'ingénieur. Son père, la chute du mur, est parti vendre des fringues en Turquie. Voilà, donc elle me raconte l'histoire russe de son point de vue de petite fille et d'adolescente dans les années 90. Donc ça, c'était un témoignage très fort. Et moi, j'avais pas envie de raconter, de revenir ici en disant, voilà, c'est ça l'histoire russe, patati patata. Donc du coup, le son, le sonore, en tout cas, m'aide, pour d'autres documentaires aussi, mais pour celui-là, m'aide aussi à, en quelque sorte, suggérer les choses plus que les expliquer et dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parce que finalement, des choses m'échappent. Et au lieu de vouloir trouver des ressorts à dire bah, « rien ne m'a échappé, c'est ça que je veux dire », non, en fait, il y a des choses qui m'échappent et je vais vous le faire écouter autrement, voilà, grâce à des sons.